Plein soleil, 15h04, vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour. Le Festibiaire s'en vient à grands pas. On a débuté l'été avec le Festibiaire. Sur la rive sud, sur le quai Paquette, le quai neuf bâti sur du vieux.
Ça allait bien à ce moment-là, quoi.
Nouvel emplacement à venir l'an prochain, vraisemblablement. Du 13 au 16 août, le Festibiaire de Québec débarque dans le secteur habituel des quais de l'espace 400e. 4 jours de découverte, de spectacles, de fun en famille, entre amis, bière, cocktails, spiritueux, cidre, vin, alternatives sans alcool, les food trucks, de la musique aussi, la grand-messe, Jay Scott et Gab Bouchard qui font partie des festivités, des shows qui sont gratuit. Vous voulez remporter vos verres, vos dégustations, c'est là que ça se passe. Boulevard 102.1 et le Festibiaire pour un été qui goûte les vacances. D'ailleurs, à ce stade-ci de la semaine, avec la température, commence à faire soif. 2 verres, 4 dégustations. 418-971-1021. N'oubliez pas votre nom, n'oubliez pas votre prénom. Bonne chance. Audrey.
2 affaires à vous mentionner. Vous rappelez sur la 20 Ouest, hauteur Taniata, donc kilomètre 318 précisément. La voie droite est bloquée. C'est un accident. On nous parlait tantôt de 3 véhicules impliqués. Et aussi sur la 20 Est, à la hauteur de la route 265, ville de Villeroy, la voie de droite qui est bloquée. C'est un accident de ce côté-là également. Quand je regarde la carte, ça arrive sud, c'est un vrai bordel, là. Si vous êtes sur la 20 Ouest, entre Monseigneur Bourget et Taniata, super difficile. Est, ça se passe entre Chemin du Sceau, mettons, et Taniata. Et Guillaume Couture, c'est pas fini en passant entre Chemin des Îles et Taniata non plus. Il y a sur Chemin des Îles, entre Guillaume Couture et Lavin, où ça commence à être problématique. Henri IV Sud, ça va se passer entre Wilfrid Hamel et Charest pour l'instant. L'entrée des ponts, on commence à le sentir direction sud. Capitale-Est, hauteur Robert Bourassa. Ouest, entre Henri Bourassa et Laurentienne. Autre chose, 88-971-1021 texto.
Véro va finir de faire le tour de l'actualité. Puis après ça, je vais vous raconter le plan qui a déjà existé où les Américains ont voulu faire sauter la Lune.
Ouh.
J'ai appris ça aujourd'hui.
C'est pas dans Watchmen, ça?
J'aimerais super-héros. J'aimerais qu'il y ait comme une image sonore où Denis nous apprend quelque chose qu'il a appris tous les jours.
C'est quasiment ça, hein?
Ah, mais j'aime ça.
Ben, oui, c'est hot.
C'est comme si tu faisais le tri de trop d'affaires qui ne m'intéressent pas sur Internet.
Je ne suis pas le gars le plus curieux, mais je me dis que si moi, ça m'accroche, ça va accrocher une maudite gang de monde.
Absolument.
Fait qu'il y a déjà eu un plan, un vrai plan, avec de nombreux rapports, puis plein de monde qui ont travaillé là-dessus. On voulait envoyer une bombe atomique sur la Lune. Je vous parle de ça tantôt. Les nouvelles terriennes, d'abord.
Parlons de Lévis. Je vous mentionnais hier qu'il y avait une rencontre qui était prévue avec les médias suite à de nombreux actes de vandalisme qui ont eu lieu depuis le début de l'année 2026. C'est une 50aine d'actes de vandalisme, entre autres dans des parcs, dans des... C'est autant des graffitis, des fils qui ont été volés,
bon, des bancs des qui ont abribus.
Été brûlés. Les abribus, effectivement, de la STL de Lévis qui ont été fracassés. Il y avait, tu sais, les espèces de chalets. C'est du côté de Charny, là, où tu vas avoir des endroits pour les toilettes du parc, etc. etc., etc., qui ont été vandalisés. C'est une facture quand même de 25 000 $ qui a dû être effacée par la ville de Lévis. Et là, ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire pour faire de la sensibilisation, beaucoup à la dénonciation.
Comment je tue de la sensibilisation?
Bien, c'est un peu la conversation que je veux qu'on ait, parce que là, ce qu'on nous a présenté, c'est vraiment la charge que ça a. Parce que oui, ça fait qu'il y a des coûts qui sont engendrés par ça. Il y a des ruptures de service quand tu ne peux pas utiliser du matériel qui a été vandalisé. Il y a des employés qui auraient été dédiés à l'entretien régulier qui doivent repousser certaines tâches pour remettre à neuf certains des équipements qui ont été touchés par ça. Puis là, ce qu'on a présenté en premier, c'est des pancartes qu'on va placer dans les parcs avec certains des graffitis dégueux qu'on avait vus en disant « ça vous choque, ben tu sais, ça choque notre mobilier aussi » ou des affaires comme ça pour un peu inciter les gens à « vous voyez quelque chose, appelez ». Mais l'autre affaire...
Pas sûr que le slogan « tu vas faire de la peine à la table de pique-nique » va scorer fort avec les jeunes.
Non, j'ai pas l'impression non plus. C'est justement ça. Par contre, on parle aussi de peut-être installer des caméras dans certains secteurs, des caméras de surveillance. C'est le cas aussi dans certains abribus achalandés de la SCL Lévis où, entre autres, il y a plus de technologies qui sont installées.
C'est pas quelque chose de dissuasif.
Mais encore là... Depuis tout le temps, des graffitis, ça existe, ou encore du vandalisme, ça existe, puis c'est poche, là. C'est vraiment poche. C'est comme Flo, on dirait que tu te rends pas compte de l'impact que ça a. Puis, tu sais, comme adulte, tu vois des Flo faire, tu te dis, voyons, à quoi on pense quand on est jeune de faire des affaires comme ça? T'sais, c'est souvent parce qu'on s'emmerde, parce qu'il y a un effet d'entraînement de gang, parce que c'est facile pour plein de raisons. Je me pose encore la question à savoir si un jour le service civil ne sera pas quelque chose d'intelligent dans notre société pour dire « voici ce que ça comporte l'entretien du bien commun » pour qu'on s'en soucie tout un peu.
Bien, je pense que ce qui fait plus mal aussi, c'est que, tu sais, dans le temps, les parcs étaient tous pareils, toutes telles lettres, tout était en métal, tu avais du gravier à terre, puis tu t'organisais là-dedans, puis... Tu sais, quand les balançoires étaient arrachées, ça nous faisait plus ou moins de peine parce que les parcs avaient l'air d'une cour de pénitencier. Ouais. Tu sais. À cette heure, les parcs sont rendus beaux, sont rendus plein de couleurs, plein de concepts. On dirait que ça fait plus mal quand tu arrives là puis qu'il y a quelqu'un qui a pris un lighter puis qui a fait brûler la moitié de la glissade.
Mais les villes ont tellement bien investi pour ça. Puis tu sais, les parcs, c'est pas juste les familles avec des jeux d'eau puis des glissades puis tout le kit. C'est d'avoir des tables à pique-nique où tu peux aller en gang. C'est mm-hmm. plein d'éléments comme ça pour lesquels on a investi parce que parmi la liste des priorités quand on arrive dans des élections municipales, là, ça en fait partie. T'sais, des installations de loisirs qui sont sur le sens du monde. Puis c'est sûr que c'est tout le temps choquant. Tu te dis, bien là, comme ville, on va-tu encore investir là-dedans? Mais tu fais quoi pour sensibiliser un jeune, pour lui dire, hey, ton lighter, garde-le dans tes poches, ça devrait, ton canif, laisse faire.
Ça devrait peut-être faire partie de l'éducation. Je veux dire, autant à maison que dans les écoles, que d'expliquer comment ça marche les taxes, puis pourquoi ça monte, puis pourquoi papa paye ouais, cher de taxes, puis ainsi de suite.
C'est tellement plate à dire, mais ben, rien à foutre à cet âge-là. On dit à nos jeunes que c'est pas bien de faire des graffitis, du vandalisme, de voler, mais je veux dire, tout jeune, malheureusement, fait son adolescence.
Il y a des villes où, quand le soleil est couché, t'as plus le droit d'avoir accès au parc. On va-tu être rendu là?
Non, poche, faut pas
c'est hyper poche, mais tu sais, c'est plate, là. Puis Lévy a investi 45 000 $, je pense, sur sa campagne de publicité pour choquer, mais je pense pas que ça ait l'effet souhaité.
Les couvre-feux, on n'est pas Huntington.
Non, je sais, mais comme société, des fois, je trouve qu'on mérite de se faire shaker un petit peu. On dirait que parce que le paiement se fait par l'intermédiaire des paliers de gouvernement, on ne se rend pas compte que c'est notre cash qui est là-dedans. WestJet qui a indiqué aujourd'hui que tous ses vols réguliers pour la journée de mercredi étaient assurés. Par contre, il y a encore du monde qui sont pognés dans les 900 vols qui avaient été annulés au courant des derniers jours pendant la grève des agents de bord. Bien, il y en a qui n'ont toujours pas trouvé de solution par rapport à tout ça. Il y a la GRC et l'Agence des services frontaliers du Canada qui ont annoncé avoir saisi 392 véhicules qui avaient été obtenus frauduleusement. Là, on ne parle pas de véhicules volés. On parle de véhicules qui ont été achetés, mais avec de fausses identités, puis qu'on faisait comme avec les véhicules volés. Là, on les faisait passer par les ports. C'est qu'en juin 2025, on avait mis en place l'opération, le projet No Cargo, et ça a été somme toute relativement payant. Je sais qu'il y a des chiffres qui sont sortis dans les dernières semaines à l'effet qu'actuellement, pour ce qui est des vols de voitures en général, on serait au plus bas chiffre depuis 2016. Puis en terminant, Marché Goodfood, pardon, qui demande la protection contre ces créanciers. Vous avez sûrement déjà vu passer cette compagnie-là de boîtes.
T'es-tu surprise de ça?
Plus ou moins. C'est pas
beaucoup,
la première
hein?
fois qu'il y avait des problèmes. Ils sont très nombreux. Il y a eu des problèmes aussi dans tout ce qui était l'administration. C'est pas la première fois qu'on entend que Marché Good Food a des problèmes. Ils continuent leurs activités au moment où on se parle. Mais là, hier, il y a un membre du conseil d'administration qui a choisi de quitter. Ensuite de ça, le chef de direction avait annoncé son départ la veille. En fait, l'entreprise avait annoncé son départ la veille. Fait que oui, il y en a beaucoup. Puis je pense que le côté plus local aussi nous interpelle. Il y a tellement
peut-être,
de services plus proches de nous autres qui vont être moins coûteux.
Moi, ça pognait beaucoup au début, l'affaire, après ça a explosé.
Moi, j'ai arrêté, j'avais tellement des problèmes de livraison. Je trouvais ça bien le fun là, d'avoir tous les ingrédients et de ne pas avoir de pertes. Mais après ça, tu te tournes vers des services qui sont plus fiables, par exemple.
Est-ce que les policiers vont faire des tours dans les parcs municipaux? Ça fait-tu partie des runs de lait qu'on fait en soirée? C'est des auditeurs qui posent et qui soulèvent la question. Moi, dans mon coin, j'en ai jamais vu, là. Je ne sais pas si ça fait partie de la donne. Il y a un auditeur aussi qui nous raconte que dans le secteur de Clermont, le parc a mis une pancarte pour dire « interdit d'aller dans le parc après 22 heures ».
C'est plate, mais tu sais, on en vient à des histoires comme celle-là. Hey, je veux te faire un petit ajout. C'est un communiqué qu'on a reçu dans les dernières minutes de la part du service de police de la Ville de Québec. C'est qu'on a procédé ce matin à l'arrestation de deux hommes âgés de 37 et 45 ans dans les secteurs de Charlebourg et de Vanier. Des hommes qui font face à des accusations qui sont liées au trafic de stupéfiants, de menaces et d'extorsions. C'est des événements en fait qui se serait déroulé durant le mois de juillet dans le cadre de la fameuse violence urbaine là, dont on parle depuis quelques années. Il y a un des suspects qui est détenu, va comparaître aujourd'hui au Palais de justice de Québec. L'autre a été libéré sous promesse de comparaître. Il y a eu des perquisitions qui ont permis de saisir, entre autres, deux armes de poing s'apparentant à une arme à feu, deux armes longues s'apparentant à une arme à feu, deux cellulaires, plus de 160 grammes de poudre blanche, des comprimés de méthamphétamine, différents objets qui sont reliés à la vente de stupéfiants et de l'argent.
3h15, 27 degrés à Québec. Bonjour. 3h20. Juste avant la pause, à Boulevard, dans le retour, on parlait des problèmes de vandalisme sur la rive sud. On essaie de trouver des solutions, de faire de la sensibilisation. Jean-François qui nous écrit par texto au 418-971-1021. En fin de semaine, il a pogné un super reportage à Radio-Canada sur la gestion des déchets à Taïwan. Au début, on dit que dès le primaire, il y a des cours de civisme et des corvées de nettoyage autour de l'école par les élèves. Les grands supervisent les petits. Il y a de quoi là-dedans qui est peut-être intéressant parce que, tu sais, on aime ça chialer contre la ville, puis la ville, c'est de la merde, puis le maire, c'est de la merde. Nos enfants sont autour de la table, ils s'en vont au parc. Bon, ben, coudonc, ma ville, c'est de la merde. Il m'a brûlé un bout de la table à pique-nique, tu sais.
Il m'a laissé traîner mes déchets à terre.
Peut-être.
Comme si ça ne nous appartenait pas, puis que c'était aux autres de s'en occuper.
Il y a quelque chose là-dedans qui peut-être est intéressant au niveau de la réflexion.
Le sens du bien commun. Je viens de trouver l'article sur ce reportage-là, mais on est de même aussi. Là. Combien de fois vous voyez quelqu'un qui laisse son sac de McDo dans un parking, qui va pitcher une canette par une fenêtre, puis les autres vont le ramasser.
Ouais, pas grave, pas ma job.
On s'était jasé des
la poubelle est pleine.
Ben, mais je vais mettre le ramasser.
Je vais mettre mon sac par-dessus la montagne de sacs qui est par-dessus la poubelle. Hein? Les joies du printemps à Québec.
Ben quoi, je paye mes taxes, ils ont juste à les ramasser.
Oui, c'est ça.
On est vraiment bizarre.
Hey, ça vous tente-tu d'aller dans le monde merveilleux des conspirationnistes? Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. T'sais, si vous avez écouté des séries comme les X-Files, vous savez, les dossiers mystères, c'est toujours le gouvernement qui nous cache des choses. Pis les conspirationnistes disent exactement la même chose. Puis une fois de temps en temps,
ils ont raison, puis le gouvernement nous cache vraiment de quoi.
Une fois de temps en temps, le temps et l'histoire, et c'est malheureux, leur donnent raison. Puis j'en reviens pas que cette histoire-là, pendant 45 ans, soit restée top secret. Et c'est presque par hasard, en faisant une biographie sur un chercheur américain, qu'un journaliste est tombé sur un document d'entrevue parce que ce scientifique-là avait travaillé sur le projet A-119. Le projet A-119, on s'entend que ça n'a pas beaucoup de sex appeal. Si je vous dis que ça a été un plan réel conçu par les États-Unis à la fin des années 50 pour envoyer et larguer et faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune.
Mais pourquoi?
Faut se replonger dans le concept. Puis ce que je trouve intéressant là-dedans, il y a des réflexions à faire sur... Il y a quelqu'un à quelque part, avec beaucoup de gros bon sens, qui a regardé les documents puis qui s'est dit « Il y a peut-être une certaine logique de papier à faire une connerie de même, là, mais moi, j'ai du gros bon sens puis j'ai un peu de jugement, puis on va prendre les papiers puis on va les mettre d'une boîte. »
Là, on est en quelle année, là?
Là, on est précisément en 1958. OK? Mais mettons qu'en 2026... Quelqu'un à la Maison-Blanche ou autour de la Maison-Blanche a une grosse idée de cave. D'après vous, le gars à Maison-Blanche, as-tu le gros bon sens de dire « Hey, ça, c'est vraiment une connerie pour l'humanité au grand complet. On va sauter notre tour. »
Oh mon Dieu,
on est à la fin. Puis ce qui est traumatisant...
J'ai comme d'avoir un malaise.
ce qui est traumatisant là-dedans, c'est qu'on est à une époque où on s'est dit on est allé trop loin avec l'arme nucléaire. On est après la Deuxième Guerre mondiale. On a fait sauter, on a rasé deux villes au Japon. Puis après ça, la planète entière s'était comme entendue pour dire « Hey, on ne retourne plus jamais là. » Par contre, dans les années 50, c'est le début de la guerre froide avec la Russie. Et il y a une course qui se déroule entre les États-Unis et la Russie pour savoir qui va conquérir la Lune en premier. Et comme notre hockey s'est fait sonner par les Russes au début des années 70, il y a un événement qui est venu piquer l'orgueil des Américains. L'événement, c'est Sputnik 1. Sputnik 1 en 1957, c'est le tout premier satellite artificiel de l'histoire. Puis on a réussi à l'envoyer faire des bip-bip-bip autour de la Lune. Les États-Unis, là, constatent que, scientifiquement, les Russes ont une longueur d'avance. Puis là, eux autres, ils sont en train de computer, puis ils se disent, OK, là, ils viennent de lancer le premier satellite. Nous autres, on n'est pas rendus là. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'aller sur la Lune, de mettre le drapeau russe. Nous autres, on ne peut pas accepter ça. Et c'est dans ce contexte-là que Washington a fait un brainstorm de dire « Faut faire une démonstration de force. On est en retard au niveau technologique face aux Russes. »
Fait que si on ne peut pas aller sur la Lune, personne ne va
pouvoir
y aller.
On va la faire sauter.
Mais c'est une drôle de façon de penser. Hein? C'est...
La science derrière tout ça, mon Dieu, comme s'il n'y avait pas d'influence entre la Terre et la Lune.
C'est pas un brainstorm pour avancer technologiquement plus rapidement. Non, 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 non.
Non.
On dirait un scénario d'Austin Powers.
C'est ridicule. Voyons.
Février 1957, Edward Teller, c'est peut-être un nom que vous connaissez, c'est le père de la bombe à hydrogène, de la bombe H, avait suggéré de faire exploser des engins nucléaires sur la surface lunaire et près de la surface lunaire. L'objectif, c'était pas un objectif scientifique de montrer qu'on était capable. On voulait quelque chose de visible à l'œil nu qui allait passer le message au monde entier de ce que les États-Unis étaient capables de faire.
Comme le nouveau cratère de SpaceX hier
soir. C'est freakant, mais SpaceX, t'étais pas capable de le voir à partir de la Terre. Puis les rapports qu'on avait demandés à l'époque, à la fin des années 50, devaient vérifier deux choses. Premièrement, les risques d'une mission comme celle-là, parce que tu pars avec une bombe dans fusée. Tu comprends que c'est... Tu comprends que c'est un Christi projet de cow-boy, là?
Il y a des fusées qui explosent, là.
On est à une époque où on n'a pas encore réussi à se rendre, là. Tu sais, l'humain, même Tintin n'avait pas marché sur la Lune encore, là.
Mais c'est donc absurde!
La gang de cabochons autour de la table, toi.
Mais on voyait ça comme un gros coup de communication, une démonstration de force, puis ça venait d'un sentiment de panique de dire « Oh, tabarnak, nous autres, on pensait que les Russes, au niveau scientifique, ils n'étaient plus là pantoute, là. Mm-hmm. » On voulait viser avec une bombe nucléaire, ce qu'on appelle le terminateur lunaire. Ça, c'est la ligne qui sépare la partie éclairée puis la partie ombrée de la Lune. Puis on se disait, si on est capable de la faire sauter là, il y a des bonnes chances que ce soit visible à partir de la planète Terre, puis c'est carrément ce qu'on voulait. Si tu réussis à larguer une bombe là, on dit que ça produit un éclair puis un immense nuage de poussière. Les deux seraient observables à l'œil nu depuis la Terre. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est envoyer une fusée qui transporte une bombe atomique. La bombe à hydrogène était trop lourde pour le voyage. Fait que, tu sais, on est rentré dans le détail, là, du pratico-pratique. Là. On est allé jusque-là. On a produit 8 rapports secrets en 1958 et 1959 sur les risques d'une mission comme celle-là, sur les possibles retombées sur la Terre.
Tu sais,
y a-tu des radiations? Est-ce qu'on peut en arriver d'une façon ou d'une autre à ce qu'il y ait des dommages sur la Terre?
Mais au-delà de ça, il y a un effet gravitationnel entre la Terre puis la Lune.
Mm-hmm.
Vous pensez que les marées, c'est créé par quoi? Par de l'eau qui monte puis qui descend? C'est pas de même, là.
L'armée de l'air américaine a mis fin au projet A-119, puis les raisons exactes de l'abandon sont
encore...
C'est que
quelqu'un s'est rendu compte que c'était débile?
Bien, sur le fond, on dit qu'on n'a pas encore la raison principale pour laquelle ça a été mis au rencard, mais dans les hypothèses, t'as la crainte d'un danger pour la Terre et les humains. Mettons que tu manques ton lancement, je le rappelle, on est à une époque où on n'est pas été capable d'envoyer quoi que ce soit sur la Lune, d'une possible contamination radioactive de la Lune et les 8 rapports de l'équipe à l'époque qui étaient composés de plusieurs scientifiques. C'est des rapports qui ont été détruits en 1987, dont on n'a plus aucune trace aujourd'hui.
Ils étaient trop gênés, ils ont mis le feu.
Oui, puis c'est en 2000... qu'un journaliste a réussi à mettre la main sur une entrevue d'embauche d'un scientifique qui a fait partie de ces comités-là. Il a appelé le scientifique qui lui a confirmé qu'effectivement, on avait contemplé aux États-Unis le projet d'envoyer une bombe sur la Lune.
Je veux le film de cette histoire-là.
La question que je vous pose maintenant, si une idée de même arrive en 2026 à Maison-Blanche, est-ce qu'on perd la Lune en dedans d'un mois?
Et puis les effets que ça pourrait avoir, c'est juste débile. Là.
Ça aurait peut-être dû rester secret encore une couple d'années.
Je pense que ça te donne des idées.
Colline.
Il y a comme un malaise hein, autour d'une histoire de même, mais sachez que ça a existé parmi les possibilités. Puis rendu là, si un plan comme celui-là a existé...
Quel autre plan a existé? Moi, c'est ça que je me demande.
Réfléchissons ensemble à tout ce qui a existé. Hey, j'ai entendu en reprise cet été... l'entrevue qu'on avait fait avec deux journalistes qui nous ont parlé de l'usine de production de bombes à anthrax.
À Grosse-Île.
À Grosse-Île.
Quand je suis allée dans ce coin-là, j'ai reparlé de cette entrevue-là. Puis, tu sais, je voyais la proximité de l'île avec le rivage. Je suis comme, mais ça n'a pas de bon sens que ça ait existé, qu'on ait eu cette quantité-là d'anthrax à proximité de civilisation dans un cours d'eau aussi important que le fleuve Saint-Laurent.
On avait une usine qui fabriquait des bombes à anthrax qui n'ont jamais été utilisées. Le gouvernement du Québec n'était pas au courant. Le gouvernement du Canada était au courant. Et quand on a scrappé le projet, on a pris tout le stuff dangereux puis on a sacré ça dans le fleuve. L'humain n'est pas idiot depuis 2026. Là,
non, mais c'est surprenant que l'humain soit encore en vie.
Si jamais, en passant, là, c'est les journalistes Yves Bernard puis Vincent Frigon, là, puis ils ont publié, dans le fond, au printemps, c'est dans ce cadre-là, surtout qu'on avait
le
fait
livre, ouais.
Le projet N. Si jamais ça vous intéresse, là, Grosse-Île, l'arme secrète de la Seconde Guerre mondiale.
C'est toutes des affaires qui ont existé pour vrai.
Oui.
Puis on dirait que ça fait encore prendre conscience davantage à quel point on a passé proche, souvent, de tout scraper. Dans le cas de la Lune, c'était d'un concours de zizi avec la Russie. Là. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Là. La seule étape que les Américains ont gagnée, puis ils ont passé une fortune là-dedans, c'est que le premier humain sur la Lune, c'était un Américain. Mais toutes les autres étapes d'avant, c'est toujours les Russes qui ont réussi à prendre les devants.
T'avais-tu regardé la série de Apple TV « For All Mankind », pour toute l'humanité? C'est une chronie?
Moi? Une quoi?
C'est une histoire parallèle. Si, mettons, il y a un élément dans l'histoire qui change, comment l'histoire aurait pu évoluer? Et si la première personne qui avait mis le pied sur la Lune avait été un Russe?
Ouais.
Vraisemblablement que la course à l'espace se serait poursuivie. Puis, tu sais, au départ, les parallèles sont assez près. Là. On parle de Mercury 7 puis d'une période qui a existé pour vrai, mais là, on amène les variantes. Puis plus ça va, plus ça s'en va à l'extrême parce que c'est comme si on n'avait jamais arrêté de se compétitionner, mettons, entre les Américains puis la Russie par rapport à qui va être le premier à se rendre sur Mars.
Il y a des trucs... si on se lance... Comment t'appelles ça? Des uchronies?
Il me semble que c'est uchronie le bon terme.
Moi, il y a plein de questions que je me pose encore par rapport... Puis juste au Québec, là, même en sortant pas du Québec, là, mettons que le premier référendum y aurait passé. Mm-hmm. Où est-ce qu'on serait en 2026? On vivrait dans quel genre de pays, entre guillemets, en 2026? Est-ce qu'on se serait rendu à un pays? Est-ce que le Canada aurait envoyé l'armée? Il y a comme plein d'affaires. Si les Nordiques n'avaient pas été vendus au Colorado, est-ce qu'on aurait réussi à les garder si on avait construit un nouvel amphithéâtre comme on le suggérait à une certaine époque?
Ouais, l'univers parallèle, mais.
Ah oh, oui, ça, moi, ces questions-là, ça me fascine.
T'sais, dans les uchronies populaires, c'était d'abord un livre, mais il y a eu une série qui a été présentée sur Prime Video, The Man in the High Castle, le maître du haut château. Si la Deuxième Guerre mondiale, finalement, c'était les Allemands puis les Japonais qui avaient eu le dessus, de quoi aurait eu l'air l'Amérique du Nord? Fait que t'avais... la côte ouest qui était japonaise, t'avais la côte est qui était allemande.
Ils ont fait dans cette série-là ce que les gagnants véritables de la Deuxième Guerre mondiale ont fait. Ils se sont séparés le territoire. Mm. Fait que là, t'avais une partie des États-Unis qui allait au Japon, puis une partie des États-Unis qui allait à l'Allemagne nazie. Moi, je trouve ces idées de base-là fascinantes, mais les séries qu'on fait avec ça, je trouve que ça vient plate vite, par exemple. Je sais pas pourquoi.
On dirait que tant que ça reste dans le crédible et le « ouais, ça aurait pu être ça », ça fonctionne, mais dès qu'on s'en éloigne, je ne sais pas si c'est un réflexe de défense, mais moi aussi, on dirait que là, je bac.
Mais ça, là, poser des questions de même à une intelligence artificielle qui nous permettrait d'aller loin dans le scénario, je trouverais ça presque autant intéressant que de demander à l'intelligence artificielle d'enlever le soutien-gorge de Nathalie Portman sur une photo de Twitter. Presque! Je dis bien presque.
Grosse soirée, Denis.
15h33, c'est ça le célibat. On revient dans quelques instants. C'est Gravel dans le retour. Gravel! 15h38, fait beau, fait chaud. Le programme reste le même pour la journée de demain et celle de vendredi. 88-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur les routes, si vous avez des coups de cœur, des coups de gueule à partager, des choses à signaler. D'ailleurs, Audrey,
Capitale direction est à la hauteur de Robert Bourassa, ça s'installe. Si vous êtes sur Laurentienne Sud, vous allez chercher la bretelle pour Capitale Ouest. Difficile dans ce coin-là. Toujours sur Capitale Ouest, ça se passe entre, je vous dirais, Beau-Royal et Henri Bourassa. Il y a des problèmes aussi sur Henri IV Sud de Charest au pont. Duplessis Sud, ça se passe de, je vous dirais, chemin Sainte-Foy à l'entrée des ponts. Un peu plus haut dans le coin de Shannon, devant la base militaire Route de la Bravo, dans les deux directions au ralenti. Sur la rive sud, c'est la 20 direction ouest entre Monseigneur Bourget et Taniata. Est, c'est entre Dussault et Taniata. Surtout que ça se passe, c'est Guillaume Couture. Là, il y a encore ce ralentissement-là dans les deux directions, entre chemin des îles et Taniata, s'il y a autre chose, évidemment. 88-971-102, texto.
As-tu rechanté pendant l'été, toi?
Non, j'ai pas chanter.
OK.
Ouais, je sais pas ce qui se passe, là.
C'est peut-être les biscuits Ritz que t'as dans la gorge.
C'est peut-être le petit amas de fromage de Ritz.
Vous aimez ça, des Ritz, vous autres?
Ah, je suis un peu... Ben, c'est nouveau comme passion.
OK. OK, c'est une passion de femme enceinte.
Peut-être.
Okay.
Moi, ça me passionnait, mettons, quand j'avais l'âge primaire. Là, j'aimais même faire des sandwichs avec deux biscuits Ritz puis du beurre de peanut au milieu.
J'ai jamais aimé les biscuits
Ritz. Pour vrai?
Je pense que les biscuits qui sont secs en partant,
genre biscuits soda non plus,
non, je déteste ça.
Mais ça, c'est pas sec, là. T'as un petit
moumou au milieu.
Oui, c'est ça. Je pense que tu te trompes, toi, là.
Non, mais t'as des Ritz qui sont...
Nature. Avec rien,
c'est dégueu. Ça goûte rien, mais ça goûte à ça. T'as un petit gel dans le milieu. Ben eux sont au fromage.
Ton gel dans le milieu, on dirait une punition de Cheese Whiz.
T'as perdu un bout de Ritz.
Oh non, t'as perdu le bout le plus intéressant. Là, là t'as pogné juste le fromage puis le...
Non, c'est pas bon.
T'aimes pas ça? Puis avec du beurre de peanut, t'aimes-tu ça? C'est plus gros un peu, peut-être que ça va être moins.
Du beurre de peanut?
Ah, ouais. Ça, c'est l'autre sorte. Parce que là, c'est ça l'affaire. C'est que moi, je peux pas me contenter d'une sorte. Faut que je puisse alterner entre les deux.
À part donner soif, là, à quoi ça sert?
Ben, c'est crispy, c'est bon.
Préviens-moi
de l'enfance.
Non, mais je pense que c'est... Ben non, mais c'en est comme d'autres.
Oh, c'est pire au beurre de peanut.
Ah ouais, ça te pogne
les
nerfs. Non,
ça marche pas. C'est des goûts qui marchent pas.
Hein, c'est même bizarre ton affaire.
Non.
Je sais pas, j'ai toujours relativement, mais ça, je trouve qu'il y a beaucoup trop de craquelins, justement, secs qui goûtent pas grand-chose. Eux autres, au moins, ils ont un petit quelque chose de le fun.
Parlant d'avoir soif, comment se comporte votre consommation d'alcool pendant l'été? Bon, Audrey, tu ne prendras pas part à cette discussion. Trouves-tu ça tough, en passant? T'es allé à des shows, festivals d'été, puis tout ça.
Mais le mot est différent, on se le cachera pas. Je pense que ce que je trouve tough, c'est plus la gestion d'humain de fin de soirée.
Quand t'as tout à jeun, puis les autres sont pas là.
L'univers est très différent, mais... Mm-hmm. Ce que je trouve difficile, là, c'est en frais, puis c'est vraiment sincère, c'est pas le feeling plus que le goût de certains produits.
Okay.
Ces temps-ci, mettons, là, un bon vin rouge, là, mais un vrai bon vin rouge. Là. On dirait qu'avec certains repas... Là...
Ah, tu le dis avec une certaine dose de regret. Là. Ah! Je le sens bien.
Tu sais, mon chum, des fois, se commande un verre, puis je suis comme... Ah, ça perlit pas pète.
Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas dit « J'ai le goût d'un bon gros vin rouge.
Ouais. »
Là,
accès.
C'est ça. Je sens, comment est-ce qu'il disait tantôt avec la lutte, là, je sens la rage dans la cage.
J'ajouterais même avec un bon tartare de bœuf, mais ça, c'est une autre histoire.
Oui, oui, toutes des affaires que tu peux pas, là.
C'est ça. Mais ça me manque pas tant, pour être honnête. Je le vis vraiment mieux que je pensais. Je suis pas alcoolique, là, mais je veux dire...
Non, mais en étant malade tout le temps, ça doit pas donner le goût de prendre un bloody.
C'est sûr que non. Effectivement, je te le donne.
C'est drôle, hein, parce que depuis quelques années, on entend un discours qui est toujours un peu le même. Ah, les jeunes de nos jours, ils boivent moins que les générations d'avant, puis ainsi de suite. Il y a des chiffres qui sont sortis qui nous montrent que, finalement, c'est pas vrai. Ils boivent pas pour les mêmes raisons, mais là, le petit retard qu'il y avait au niveau de leur consommation d'alcool, ils l'ont rattrapé. Puis la génération des plus jeunes boit autant que les générations d'après. Particulièrement depuis que l'essentiel de la génération a atteint l'âge de la majorité.
Ah, ben là, c'est sûr. Hein.
C'est un petit peu ça qu'on explique dans ces chiffres-là qui sont sortis sur la génération Z. Un taux de consommation de 81 %, ça, c'est pour les milléniaux, les millennials. Ça, c'est qui est là-dedans, ça?
C'est avant 96.
C'est ça. Ils demeurent les plus grands consommateurs d'alcool. La génération X est à 77 %. Et pour ce qui est du taux de consommation chez les membres de la génération Z, qui ont atteint l'âge légal dans 15 marchés, dont le Canada, c'est en hausse. Il était à 66 % il y a 3 ans. Il est à 74 % maintenant. Fait que si on répète, les millennials, 81 %, génération X, 77 % et 74 %. pour la génération Z.
C'est des chiffres qui se ressemblent beaucoup. Hein?
C'est presque le même niveau que le taux global de consommation d'alcool qui est demeuré stable, lui, à 76 %. Par contre, oui.
La vague de bien-être, ça veut dire que c'était un peu une fausse idée. Là,
exact.
On mettait ça beaucoup là-dessus. Là. Sur les réseaux sociaux, il y a une grosse vague de bien-être, ils font plus attention.
C'était pas ça, c'était juste une erreur statistique.
Carrément.
Ceux qui sont les plus susceptibles de suivre les recommandations gouvernementales en matière de santé concernant l'alcool, c'est la génération Z. Par contre, c'est des gens qui consomment avec plus de modération. Puis on dit que dans les raisons pour lesquelles la jeune génération consomme des boissons alcoolisées, bien, eux autres, la raison principale, c'est la raison sociale.
Oui.
Alors que pour nous autres, souvent, c'est comme dans les annonces. Ouais, ben je le mérite.
Hein? Oh mon Dieu, qu'on l'a facile. Hein?
Ça va bien, je le mérite. Ça va pas bien, je le mérite. Hey, j'ai eu je le mérite à facile en tabarnouche cet été.
Ah
moi.
Ouais, hein?
Oh, oh, oh,
mais j'ai
su
quelques photos de fin de soirée où t'avais l'air vraiment bien.
Oui, oui, oui. Je pourrais te dire que quand on a recommencé à travailler lundi, je me sentais comme... Bon, les vieux amateurs des Nordiques vont se sentir concernés. Je me sentais comme Sergueï Milnikov quand il est sorti de l'avion.
Oh!
Ouais,
oh!
Ouais.
Oh!
Sergueï Milnikov!
Des fraîchis!
Sergueï Milnikov, c'était supposé d'être un excellent gardien de but pour les Nordiques.
Okay.
Puis quand il est sorti de l'avion, on a vu qu'il avait abusé des bonnes choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
On parlait de Factor plus tôt dans le show.
Il y avait moins d'espoir tout d'un coup.
Il ressemblait à Thor gras.
Okay.
Ouais.
C'est
il y avait le corps gras.
Oh,
fait que, ouais, ça a été un été. Ben, t'as vu, là, j'ai gonflé.
Mais ça, c'est un peu dans ta tête. Là. Je comprends que tu te sens peut-être pas bien, mais moi, j'ai pas remarqué une hausse de poids chez toi. Ouais.
J'ai vu des photos passer de l'été dernier, puis ça me paraît d'en face. Des gros...
Ben écoute, je veux pas être insultante pour le Denis de mai-juin, mais moi, j'ai pas vu grande différence. Fait que si tu le prends du bord que tu veux, je trouvais pas que t'avais pris tant de poids que ça. Là.
OK, bon, ben je vais le prendre. Il était peut-être pris avant le début de l'été aussi.
Peut-être
là.
Aussi.
Peut-être
tu le voyais tous les jours, fait que peut-être que la gradation, ça a passé sur ton radar.
Peut-être pas ça.
Non, pour vrai, il y a dans les autres générations, au-delà de la plus jeune génération, que c'est socialisé. Puis souvent, c'est 5 personnes ou plus. Tu sais, les moments où tu vas prendre de l'alcool chez les plus jeunes, nous autres, souvent, c'est juste pour se détendre. C'est une des raisons qui revient le plus. Ça, dans ce temps-là, tu n'as pas besoin d'être 8. Là. D'ailleurs, moi, personnellement, je ne me détends pas s'il y a 8 personnes autour de la table. Là. C'est comme des circonstances impossibles. Buvez-vous plus l'été, vous autres, que l'hiver?
Parce que j'ai plus d'opportunités.
Mm-hmm.
Parce que moi, tu sais que j'ai une dysmorphie d'âge là, dans ma tête. J'ai pas mon âge. Fait que je suis très génération Z dans ma consommation d'alcool. Fait que je le fais avec des gens. Parce qu'il y a quelques années, puis Audrey, moi, on t'en avait déjà parlé. Nous, la journée où on la trouvait tough, on méritait un verre de vin après, puis moi, j'ai changé cette habitude-là. Je veux plus boire parce que je mérite un verre, je veux boire parce que je le partage. Mais l'été, je vois beaucoup plus de monde.
C'est l'hiver.
Plus souvent. Fait que sans dire qu'il y a de l'exagération à la fois, quand tu comptabilises dans ta semaine, des comme...
Ça va vite.
Ah ouais, hein? Même si j'ai pris genre juste un verre, mais j'en ai pris 7 jours, c'est beaucoup de consommation d'alcool.
Moi, je me suis fait prendre par une question que je pose quand mon plus jeune commence à me poser beaucoup de questions qui commencent par « pourquoi? » Puis je lui réponds « ben pourquoi pas? » Le problème, c'est que quand t'es en vacances l'été, puis que tu regardes le frigidaire à bière, puis tu te dis « ouais, je pourrais sauter un soir, hein? Ouais, mais au fond, pourquoi pas? »
Ouais, pourquoi je le ferais pas?
Ouais, c'est ça.
Bière?
Je suis en vacances.
La vie est courte.
Oui, la vie est courte. Je suis de bonne humeur.
Ouais, ouais.
Je suis de mauvaise humeur.
Tout y passe, hein? C'est ça le problème.
On a la tentation facile. Hey, il y a une chose qu'on n'a pas abordé dans ces chiffres-là. Puis ça aussi, je trouve ça intéressant.
Mais quel est votre cocktail préféré?
Les cocktails sont très populaires chez la jeune génération.
Ben oui, mais là, les compagnies mettent tellement d'argent là-dessus. Vous enfargez dans l'apérole partout. Vous n'avez pas besoin d'aller en Italie.
D'ailleurs, juste à être d'une file à SAQ puis regarder ce que les gens achètent, tu vas voir que les bouteilles de vin, tu regardes l'âge de la personne qui sort de la SAQ. Les bouteilles de vin chez les plus jeunes, là, y en a qui sortent de la SAQ, ils en ont zéro. Mm-hmm. Là. Ils ont juste pris un petit pack de prêt à boire et ils s'en vont passer un après-midi proche de l'eau avec ça. La génération qui en prend le moins d'alcool, parce qu'on pensait que c'était la génération Z, c'est pas ça pantoute, c'est les boomers.
Oh, ouais.
C'est des raisons de santé, tu penses?
C'est les plus vieux. Et oui, parmi les explications qu'on donne, il y a des raisons de santé. Les facteurs financiers aussi qui rentrent en ligne de compte. Mm-hmm. Le fait d'avoir moins d'occasion de socialiser, ce qui est peut-être un peu triste en soi, et la volonté de diminuer sa consommation d'alcool.
C'est parce que, tu sais, quand on est plus jeune et qu'on l'échappe, on se réveille le lendemain matin puis on dit « Je boirai plus jamais!
Ouais. »
Puis là, le soir même, tu recommences parce que t'es jeune et ton métabolisme le permet.
Mm-hmm.
Mais plus tu vieillis,
plus c'est vrai.
Plus t'as pas besoin de virer une brosse pour que ton sommeil soit moins bon.
Ouais.
Que ta journée le lendemain, t'es comme « Voyons, Stine, je suis dans le brouillard, j'ai pris deux verres de vin, qu'est-ce qui s'est passé? »
Puis si t'en vires une, là, c'est vrai que ça te prend deux jours, t'en remettre des fois.
Je suis plus capable.
Ouais, c'est ça.
Je suis plus capable. Mon corps est comme « Non, t'as pas le goût de vivre ça. » Fait qu'à
c'est
un moment
comme les
donné,
mélanges.
Ça arrête de rentrer.
On dirait que tu te mets aussi à calculer ce que tu prends. Moi, si j'ai malheur de prendre un cocktail dans la vie, tu me verras pas prendre un verre de vin la même soirée. Je peux pas mélanger. Je vais me ramasser sur le derrière.
Denis, prend juste de la bière. Garde-la pas de même. Tu bois pas de cocktail.
Non,
tu bois
ça,
à peine
tu,
de
c'est
vin.
C'est pas de mélange.
Non.
C'est toi, blanc sur rouge, rien ne bouge. Probablement que ça dit rien pantoute comme expression.
J'ai commencé à me faire des cocktails virgin, par exemple.
T'as pour.
Ouais. Moi, j'ai des blodés, j'aime ça, là. Mais des blodés, le problème, là, c'est que je prends ça là, à citerne quasiment.
Oui,
oui, oui. Fait que je me fais des comment est-ce qu'il appelle ça? Des Virgin Mary.
Oui.
Puis je me mets ben du piquant. Là, pour qu'après un, là, j'aille la bouche en feu. Puis après ça, c'est fini. Là,
c'est un jus de tomate que tu te verses?
Oui, mais avec tu mets de la sauce piquante, tu peux mettre du sel de céleri, tu vas mettre du jus de citron,
je mets,
tu vas le pimper,
je mets trois sauces piquantes. Je mets des épices hamburger.
Ooh.
Je mets de la Worcestershire.
Ouais, la sauce anglaise.
Je brasse ça. Puis quand ça commence à boucaner, là, je me dis, OK, là,
il est
piquant. Il est piquant comme je le veux.
Mais tu verrais mon tiroir de prêt à boire, puis tu verrais qu'il y a probablement le tiers ou la moitié que c'est des mocktails qui sont là.
Mm.
Tu sais, les Montelliers, entre autres, qui sont
tellement bons,
là.
Bon, pour vrai.
Le pina colada, là, ça n'a pas de rapport.
Le bateau est très bon aussi.
C'est Romeo Gin aussi qui en fait des bons, qui fait une espèce de. C'est un spritz. Orange sanguine, rhubarbe, c'était écœurant. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est rentré dans ma routine de « Ah, il fait beau, je prendrai un cocktail, ça va très bien faire la job. »
Tant qu'à être dans les chiffres concernant la santé puis le vieillissement, là, je vous parlais de mes blodés ultra épicés. Mangez-vous épicés, vous autres? Mettons sur une échelle de 1 à 10, là.
Moi, tant que c'est pas... Tant que le reste continue à goûter, je vais être très heureuse puis je peux me rendre loin dans l'épicé. T'sais, entre autres, la bouffe indienne peut être très, très, très épicée, mais tu vas encore goûter toutes les subtilités.
Oui, moi aussi, c'est un peu ma règle, mais je tolère bien le piquant.
C'est ça, ouais.
On avait fait l'expérience Hot Ones ici, hein, avec des sauces relativement piquantes. Moi, j'aime bien ça, manger épicé. Ça a l'air que plus tu manges épicé, plus tu vas vieillir longtemps. Plus tu vas vivre vieux.
OK, ouf.
Si tu vas à Hot Ones, là, t'as des chances de vieillir, de vivre un peu plus longtemps.
Fait qu'il faut acheter des sauces piquantes, ça veut dire.
C'est une étude qui a été publiée dans le British Medical Journal. De 2004 à 2008, on a recruté plus d'un demi-million d'adultes en Chine. On parle, tu sais, ceux-là qui disent là, à 1700 personnes pour le sondage, c'est pas crédible. Là. Bon, celui-là, il y a beaucoup de monde, là, si c'est votre critère numéro un. Et même après avoir contrôlé de nombreux facteurs de confusion possibles, comme, mettons, le tabagisme, l'activité physique, t'en fais-tu, t'en fais pas, la consommation de viande rouge, en manges-tu, en manges pas, les fruits frais, les légumes, l'alcool, qu'est-ce que tu consommes? Les adultes dont la consommation d'aliments épicés atteignent en moyenne 6 ou 7 jours par semaine présentent un risque de décès inférieur de 14 %.
C'est quand même beaucoup, là.
14 % à ceux dont la consommation était inférieure à une fois par semaine. C'est énorme. Puis ça, c'est au-delà de « t'es-tu en forme physiquement? » c'est quoi tes autres habitudes de vie, puis ainsi de suite.
Mais pourquoi, mettons? C'est quoi qui explique ça?
Je sais pas, mais je suis heureux en tabarnane, par exemple.
T'endurcis ton corps, voyons, Audrey!
ils ont même pas du pourquoi à leur étude, eux autres.
Je fume, je bois, mais je mange spicy. Fait que je vais peut-être me rendre. Je vais peut-être me rendre à 60.
Je te le souhaite.
Aux États-Unis, on a fait une étude similaire également, puis on arrive à peu près au même résultat. Les Américains qui consomment des piments rouges forts 13 % moins de risque de mourir à un moment donné de l'étude que ceux qui n'en consommaient pas. C'est quand même spécial. On a trouvé une hypothèse qu'on n'est pas en mesure de vérifier, par exemple. Connaissez-vous la capsaïcine?
Mais c'est ça qui fait que c'est piquant, non?
Il nous avait parlé de ça quand il était venu faire les Hot Ones puis qu'il était venu présenter les sauces. C'est le principal composant actif des piments. On dit que ça pourrait être bénéfique en raison de son effet sur les récepteurs de nos cellules nerveuses. Les cellules qui perçoivent la chaleur, qu'elles soient d'origine thermique ou épicée. Puis ces récepteurs-là sont dans tout notre corps, entre autres dans la peau et le système gastro-intestinal, puis de nombreuses cellules immunitaires également. Fait que quand tu endures ou quand tu travailles ou t'entraînes, ils s'activent toute la gang. Pas juste celles que t'as sa langue qui disent « Oh, ta boire, c'était piquante pour vrai. »
C'est
là.
Comme un workout pour ton corps sans que tu t'en rendes compte.
On dirait que c'est un peu ça. Ils sont pas en mesure de le prouver, mais ils sont comme poignés avec des chiffres qui essayent d'expliquer puis qui se disent « Hey, what the fuck? »
Tellement content de mon plan de piment tabasco sur mon balcon.
C'est quand même... Fait que là, tu peux dire maintenant que tu t'entraînes quand même souvent, Denis, à l'interne.
J'entraîne mes récepteurs.
Ben oui.
Absolument.
Je t'entraîne énormément.
Tu trouves pas que j'ai un beau teint? Là, c'est justement, j'entraîne mes récepteurs. Ben voilà. Faut commencer par quelque part. Hein.
Ça marche.
Il est 15h54. Dans une vingtaine de minutes, on va avoir de la belle visite. Judith Demel, journaliste judiciaire du Soleil, qui va venir s'asseoir en studio avec nous autres. Et à 17h, on se branche avec Kevin Owens de la WWE qui a effectué un retour à l'action ce dimanche. Au stade des Vikings de Minneapolis, des Vikings du Minnesota, après 17 ans à se remettre. 17 ans. 17 mois à se remettre d'une blessure. Fait qu'on va se brancher avec Kevin Owens aux environs de 17 heures.
Gravel.